maintenant un bon boîte-casse.
Maintenant un bon boîte-casse. Et maintenant un bon boîte-casse.
Et bonjour à tous et tous, c'est avec Adrien Martineau que l'on termine pratiquement la journée. Bonjour Adrien.
Salut Nico.
Alors, tu es le responsable de communication en fait de Days of Wonder, cette petite société qui s'est créée il y a 10 ans, puisque vous fêtez vos 10 ans. Félicitations, bon anniversaire.
Merci.
Voilà, alors 10 ans à faire en fait du beau jeu, du gros jeu. En 2002, ça a démarré avec quel jeu finalement?
Ça a démarré avec c'était Gang of Four, hein, le premier jeu qu'on a édité, Gang of Four, puis les Pierres du Dragon. On était plutôt sur les petits jeux au début. Hein. Première boîte, c'était des petites boîtes, on a fait Collier de la Reine aussi. Petit jeu, puis on a fait Mystère à l'Abbaye. Premier gros jeu, il y a 10 ans, 9-10 ans.
Mystère à l'Abbaye qui était un peu une revisite du Cluedo, on va dire, hein, pour le mettre dans une catégorie, donc un jeu d'enquête, mais avec des mécaniques beaucoup plus intéressantes. Enfin, différentes, on va pas dire intéressantes, hein, c'est subjectif. Mais toujours est-il que le jeu a eu son succès et que vous le ressortez en plus maintenant.
Oui, Mystère à l'Abbaye est un jeu qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Notamment, je trouve que c'est des jeux qui sont assez rares, hein, ces jeux un peu d'enquête, avec une sorte d'ambiance comme ça. Je trouve que c'est très marrant parce que quand tu joues un peu dans pas dans la pénombre, mais tu vois, tu te mets un peu l'ambiance. Et, donc c'est,
ça joue au nom de la rose un peu.
Exactement, avec ce côté un peu, tu vois, tu vas parler aux gens, et puis les mecs ils prennent un peu l'accent du moine. Et puis enfin, tout de suite, c'est assez drôle. Et puis, ça a eu son succès, et puis c'était en rupture depuis. Depuis 3-4 ans, on a sorti Mystery Express entre-temps, qui est aussi un jeu d'enquête, qui a eu un petit succès aussi, hein, mais qui a peut-être moins bien marché que Mystère à l'Abbaye. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de le ramener, de refaire un nouveau tirage et de le proposer maintenant de nouveau. Quoi.
Et le pitch de Mystère à l'Abbaye, tu dis qu'il y a une ambiance, qu'est-ce qui crée cette ambiance dans ce jeu-là?
Déjà, le fait de jouer dans un monastère, c'est-à-dire on est chacun un moine, tu vois, à la recherche d'un moine assassiné par un autre, enfin, il y a cette ambiance-là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que Bruno et Serge ont mis aussi des règles d'ambiance où, lorsque tu poses une question à un autre joueur, il a le droit de te faire une sorte de vœu de silence, où tu vois, il y a des sortes de petites cartes, où on peut chanter les messes, tout ça. Donc, c'est un jeu, je pense, c'est typiquement ce genre de jeu qui n'est pas un jeu d'ambiance, c'est pas un party game, si tu veux. Mais c'est un jeu où il y a une atmosphère qui se crée tout au long de la partie, et ce que tu n'as pas forcément dans des jeux qui sont des fois plus mécaniques, où tu fais simplement, tu bouges des pions. Quoi.
Et là, on est dans un jeu d'enquête où il y a quelqu'un qui a été assassiné, en fait, et il faut trouver qui l'a fait.
Voilà, c'est un jeu d'enquête, de déduction, d'observation, et c'est même un jeu de suspicion. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où tu as forcément une déduction mécanique et méthodique au fil du temps, mais c'est aussi un jeu où, au moment donné, tu as une sorte de suspicion, parce que tu dis, ah tiens, le père Bidule, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, il est peut-être un peu louche, quoi. Donc c'est pas forcément un jeu très mathématique, si tu veux. C'est un jeu où il y a des feelings, il y a de l'ambiance, quoi.
Le retirage de Mystère à l'Abbaye, il est retiré tel quel, il n'y a pas de modification, c'est pas une réédition.
Non, c'est pas une réédition, c'est un tirage à l'identique à l'édition précédente, qui incluait déjà la petite extension qui s'appelle Les Chroniques d'un Pèlerin. Hein, donc c'est une édition complète du jeu, quand même.
Ok, autre gros tirage d'un jeu qui a aussi eu son succès, c'est La Crique des Pirates, qui est juste ressorti maintenant. Pourquoi ces retirages, en fait ?
Crique des Pirates a été, il était absent depuis un peu moins longtemps, hein, mais pareil, c'est un de nos premiers jeux qui a toujours bien marché depuis. Là aussi, c'est un jeu qui est relativement familial, hein, mais c'est aussi un jeu d'ambiance, c'est-à-dire que Crique des Pirates, moi quand j'y joue, quand on se lance des pelletés dés pour faire les bordées de canon, on crie des noms de pirates et puis à l'abordage, quoi. Et voilà, donc c'est un jeu par le thème de la piraterie, par plutôt effectivement une... Alors, je trouve que c'est une belle édition en termes de graphisme et de matériel, qui a toujours eu son succès et qui est vraiment très drôle, en fait.
Et donc, le pitch de La Crique des Pirates, puisque pour ceux qui ne le connaissent pas...
Alors, Crique des Pirates, tout simplement, tu es à la tête de ton navire dans les Caraïbes, et tu es en quête de gloire et de fortune, donc tu vas équiper ton bateau, aller dans des ports pour avoir des meilleures voiles, apprendre des canons, embaucher un équipage et te lancer à l'attaque des îles, récupérer des trésors et de la gloire. Mais bien sûr, il y a les autres joueurs pirates qui sont là, et ils n'hésiteront pas à attaquer ton navire. Voilà.
C'est un jeu où on se déplace et on gère un peu la force de son bateau, on va chercher des choses, il y a un peu de pick and delivery, ce genre de choses-là.
C'est pas de pick and delivery, mais c'est un jeu de choix simultané, parce qu'effectivement, quand tu choisis d'aller sur une île à l'aide d'une roue secrète de choix, tu vas te retrouver avec d'autres joueurs et il ne peut en rester qu'un, si tu veux. Voilà, il n'y a qu'un seul joueur qui pourra prendre ce qui se trouve sur l'île. Donc c'est là que tu vas te battre avec des dés, donc tu as envie d'avoir des meilleurs canons pour mieux tirer, tu as envie d'avoir des meilleures voiles pour aller plus vite et prendre l'initiative, ainsi de suite.
C'est un jeu de tuning pirate.
C'est ça, c'est thune ton bateau pirate, ouais.
Donc, une autre actualité qui est assez forte, puisque ça parle d'un jeu qui a eu énormément de succès chez vous, c'est les Chevaliers de la Table Ronde, mais cette fois-ci, il sort en version carte. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le jeu, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec Bruno Catala. Donc, c'est un jeu de Bruno Catala et de Serge Laget. La seule chose, c'est que ce n'est pas Days of Wonder qui a demandé une version carte, comme on aurait pu le croire par rapport aux Aventuriers du Rail qui ont fait une version carte. Ça, j'imagine que c'était une histoire de gamme qui continuait. Tandis que là, ce n'est pas du tout le cas. Comment a été accueillie la proposition des Chevaliers de la Table Ronde version carte?
Non, Bruno a bien raison, et c'est vrai que Table Ronde doit avoir, pareil, c'est un jeu qui est assez ancien, 7-8 ans, on a fait une extension, la Compagnie de Merlin, qui est sortie quelques années après, et on n'avait pas retravaillé dessus, et puis le jeu menait sa vie, avec son petit succès, on n'y pensait plus trop, je veux dire, et puis un jour, Bruno et Serge nous ont contactés en disant, on travaille sur une nouvelle version du jeu, version un peu 2.0, on a dit, ben, pas de problème, montez nous voir et nous en parler, et en fait ils sont venus à Paris avec un tout autre projet, ils se sont dit, ouais, alors la version 2.0, on n'y croit plus trop, parce qu'elle est un peu trop similaire à la première version, mais du coup ils avaient travaillé sur cette petite version jeu de cartes, et je pense que ce qu'ils ont cherché à faire, c'est avoir une version qui soit vraiment différente en termes de feeling par rapport à la première, et en termes de temps de jeu, en termes d'expérience de jeu. Et donc ils sont montés à Paris un lundi de matin de janvier, et ils ont amené le prototype, et on a enchaîné 6 ou 7 parties dans la journée, et on s'est éclaté. Et effectivement, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vif. Tu retrouves les éléments de base qui ont fait le succès des Chevaliers, c'est-à-dire le félon, les quêtes avec les épées. Mais la mécanique au cœur du jeu a totalement changé. Et oui, tu joues un vrai jeu coopératif en 20 minutes, une demi-heure.
Là, il y a un côté innovant aussi, c'est qu'on est vraiment dans la coopération sur très très peu de temps.
Moi, je trouve qu'il y a un côté très innovant, parce que contrairement à beaucoup de jeux coopératifs, en fait, tu vas faire confiance en fait à une capacité des joueurs. Tu vas faire confiance à une capacité de mémorisation. Alors moi, je suis une bille en mémoire. Tu veux pas savoir à quel point ma fille me fout des tôles au memory. Mais là, c'est un jeu que, au contraire, j'arrive à jouer très bien, parce que justement, c'est un jeu où tu vas juger effectivement de la capacité de mémoire de tes collègues. Tu vas dire, ah, lui, il se rappelle qu'il y avait un 5 sur le Graal, et lui, il y avait un 3, donc oui, mais il y a tel cas. Donc voilà, donc c'est pas un jeu de mémoire, c'est pas une compétition de mémoire, si tu veux, c'est pas un memory.
Comment fonctionne le jeu, en fait?
Alors, comment fonctionne le jeu? Alors, tout simplement, les joueurs vont essayer de gagner en alignant 7 épées blanches sur la table. Malheureusement, s'ils en alignent 7 noires, ils perdent la partie. Et donc, c'est un petit système où tu vas essayer de faire des quêtes. Donc, il y a 5 quêtes différentes. Hein, donc, certaines qui rapportent plus d'épées que d'autres, comme le Graal, et puis d'autres un peu moins, comme les piques tous les Saxons, qui rapportent une épée chacune. Et en fait, tu vas construire une sorte de défausse, une pile de défausse, où tu vas empiler les cartes les unes sur les autres, en essayant de te rappeler ce qui était empilé dessous. Et à un moment donné, tu vas pouvoir dire, je pars en quête sur une des 5 quêtes. Et si, effectivement, en dépilant les cartes, tu te rends compte que la valeur totale des cartes de cette quête atteint un certain niveau, 11, 12 ou 13 en l'occurrence, eh bien, la quête est réussie. Bah, si tu pars trop tôt, tu as une pénalité, parce que, bah, effectivement, il n'y avait peut-être pas de problème avec le dragon, mais tu es parti quand même. Inversement, si tu pars trop tard, bah, c'est le dragon a mis à sac 2-3 villages sur la côte, et donc, d'où pénalité, quoi.
Les Chevaliers de la Table Ronde, version plateau, ça, tu as un des chiffres de vente?
Là, comme ça, non, mais ça continue à être une sorte de référence, mine de rien, en termes du jeu coopératif, parce que c'est un thème fort. Le mythe arthurien, c'est encore un thème que les gens aiment beaucoup. Et puis, il a été, par certains aspects, assez innovant, et il est toujours un jeu qui est très agréable, et que les gens aiment beaucoup jouer, oui.
Alors, dans l'actualité, là, un petit peu plus anecdotique, on a vu arriver une boîte avec des wagons, avec des citrouilles dedans. Comme disait l'un de tes collègues sur Facebook, totalement inutile, donc indispensable. C'est quoi cette logique? C'est de voilà, vous avez une gamme de jeux qui fonctionne finalement très très bien, et vous vous faites plaisir sur ces coups-là?
Oui, on se fait plaisir, on fait plaisir aux gens qui sont un peu collectionneurs, qui sont fans. C'est, effectivement, ça ne sert absolument à rien, mais quelque part, voilà, c'est rigolo, c'est joli. C'est de nouvelles couleurs de jeu, c'est des wagons qui sont sculptés un peu différemment, avec des petites citrouilles et des stations un peu en forme de fantômes. Voilà, c'est un peu le cadeau idéal. Si t'as un pote qui aime bien aventurer du rail et qui voilà, tu sais pas quoi lui offrir, ça vaut 10 euros, c'est rigolo, ça fait plaisir, et puis voilà.
Dans la lignée Aventurier du Rail, il y a Zouk um Zouk aussi qui est sorti, donc c'est une version vraiment allemande, ça n'existait pas avant.
Ben ça, c'est parti d'une demande spécifique, hein, du marché allemand. qui cherchait effectivement une nouvelle version d'Aventurier du Rail, mais avec un niveau de simplicité équivalent à la carte US, si tu veux. Donc il y avait déjà Mark Lynn qui était thématisé avec les petits trains Mark Lynn, avec ce qui était un peu la version la plus complexe peut-être des aventuriers qu'on a fait. Et il voulait quelque chose de plus simple. Donc on dit on prend la même carte, hein, le même réseau de trains, et on refait le design complètement dans le même design graphique que les autres jeux, hein, les dessins de Julien Delval, ce côté effectivement tournant du siècle du 19e et 20e siècle. Avec effectivement, on a refait toutes les cartes wagons, on a refait tout le plateau, on a tout refait. Donc c'est une version un peu unique au marché allemand, voilà, un peu sur demande si tu veux.
Alors on l'a dit, Days of Wonder Fate c'est 10 ans. Toi tu es chez Days of Wonder pas depuis 10 ans, mais depuis combien de temps?
Moi ça fait 4 ans et demi là bientôt. Ouais.
Et donc tu étais joueur de toute façon à la base. Quels sont les statuts qui sont faits? Quel est l'état des lieux qui est fait au sein de Days of Wonder par rapport à l'évolution du jeu? Est-ce qu'il y a des pistes qui se dévoilent au bout de ces 10 ans d'expérience en disant voilà, c'est comme ça qu'on va évoluer et pas comme ça?
Ce qui est clair, c'est que quand tu réfléchis un peu il y a 10 ans, ça a extrêmement évolué et à une vitesse hallucinante. C'est-à-dire que bon. Il y a beaucoup d'éditeurs qui étaient là il y a 10 ans qui ne le sont plus, et en même temps il y a un nombre d'éditeurs phénoménal qui sont apparus. Je pense que le niveau global de la production a augmenté, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je pense que quand on s'est lancé, la qualité éditoriale, les graphismes, tu vois, voilà, c'était un peu les débuts. Et là maintenant tu regardes la production, enfin la qualité des matériels, la qualité des mécaniques, les purs, le graphisme. Voilà, le milieu s'est professionnalisé de manière extrêmement importante et je pense qu'on continue encore. Hein. C'est un milieu qui est encore jeune. Hein. Enfin, nous, on a 10 ans et puis voilà, on est toujours le Monopoly, ça a juste un demi-siècle. Et puis, mais on est toujours jeune et ça avance très, 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 très vite avec notamment Internet, avec les nouvelles technologies. C'est un milieu qui avance très vite et je pense que dans 20 ans, enfin dans 10 ans, encore, on aura fait de grands bonds en avant. Ouais.
Dans le genre avancé technologique, vous étiez présent les premiers sur l'iPad, par exemple, avec Small World. Est-ce qu'il est prévu de faire des jeux uniquement sur iPad, parce que la technologie, finalement, s'installe de cette manière-là?
Moi, c'est un truc auquel on pense souvent, on réfléchit. Moi, je suis pas forcément convaincu que ce soit une bonne idée de se lancer, à part si on veut devenir qu'une entreprise de jeux vidéo, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que il y a besoin, quand tu lances quelque chose sur l'iPad, quand même d'avoir une sorte de base, c'est-à-dire que ton jeu soit relativement connu pour que ça génère une curiosité, hein, si tu veux. Et on se rend compte que Aventure du Ride, Ticket to Ride, si tu veux, on le lance sur l'iPad et les gens achètent parce qu'ils connaissent Ticket to Ride. Et des gens pensaient, vous ne savez pas qui jouait, mais ces gens connaissent quand même Aventurier du Rail. Hein, donc on se rend compte que le jeu est suffisamment connu pour qu'il y ait une curiosité des gens pour aller justement vers ces versions numériques.
Donc on voit aussi apparaître, et ça c'est neuf, de l'édition ou de l'auto-édition via Kickstarter ou Ulule. Ça c'est vraiment dans l'air du temps maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qu'utiliserait Days of Wonder?
Là aussi c'est quelque chose sur lequel on se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, on n'en voit pas trop l'utilité par rapport à nous, parce que on est une structure qui est relativement ancienne et qui est relativement solide pour qu'on puisse assumer nous-mêmes des risques d'édition sans demander de la contribution du public. Après, je ne sais pas, peut-être sur certaines éditions, une édition de luxe de quelque chose, ou je ne sais pas, c'est nouveau, c'est récent. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que il n'y a pas encore eu de gros crash majeurs sur Kickstarter qui ont pu tanker un projet, donc on ne sait pas trop, on regarde de près.
Jusqu'à présent, c'est des projets qui fonctionnent, enfin ceux dont on parle, qui aboutissent en général, c'est des projets qui fonctionnent. Donc ça veut dire qu'on pourrait arriver assez rapidement à des gens qui se disent waouh, ça marche, donc on y va, et finalement ça se plante.
Oui, enfin t'es pas à l'abri d'une escroquerie sur Kickstarter, hein. Le mec il lance son truc, il peut effectivement qu'il peut montrer patte blanche parce qu'il est bien installé aux US, et puis une fois qu'il a récolté ses 200 ou ses 300 000 dollars, se barrer aux Bahamas avec la gagnotte, quoi. Enfin,
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poursuites possibles sur ce coup-là.
Non, c'est assez dur, hein, parce que c'est sur des sommes qui ne sont pas très importantes. Voilà. Donc on regarde avec une certaine curiosité, une sorte aussi de peut-être un peu d'envie de temps en temps, mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore allé sur cette nouveauté, quoi.
Tout à fait. Alors est-ce qu'on peut soulever le voile sur ce qui va arriver en 2013?
Alors, tu peux essayer de soulever le voile, mais pour l'instant, tu ne vas pas y voir grand-chose. Mais non, effectivement, on regarde beaucoup de choses, on regarde beaucoup de prototypes, on regarde beaucoup de jeux. On n'a pas sur la première partie de 2013, je pense pas que vous verrez un nouveau jeu venant de chez nous. Mais on travaille sur beaucoup de projets, que ce soit encore une fois élargir nos gammes, la partie numérique, la partie iPad. Et puis je pense qu'on a très envie de produire de nouveaux jeux. Hein. Souvent les gens disent oui, mais je comprends pas, j'attends la prochaine grosse boîte Days of Wonder, ça vient pas, ils arrêtent de faire des jeux. Non, c'est pas vrai. On a, comme j'ai dit, une structure qui est relativement stable maintenant, dont Aventure du Rail voilà, nous apporte une grosse contribution. Mais on a toujours un éditeur, on est toujours là pour parce qu'on aime éditer des jeux et ça nous fait plaisir. Et donc le jour où on trouve le bon jeu qu'on a envie d'éditer, on l'édite. Ouais.
J'ai rencontré des joueurs qui me disaient, bon, les jeux Days of Wonder sont évidemment très chouettes, mais ce que je n'aime pas, c'est cette logique de devoir faire une gamme, de tirer des jeux. On a l'impression qu'on les tire jusqu'à la corde avant de passer à autre chose.
Bah, non seulement on passe pas à autre chose, hein, parce que si tu restes sur des jeux comme Aventurer du Rail, Mémoire 44 ou Small World, ben, oui, on a fait plusieurs choses depuis leur parution, mais on continue. Hein, c'est pas un truc qu'on dit, oh, ben voilà, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu sur Aventurer du Rail, donc j'arrête. Hein, donc c'est une vraie volonté de développer les gammes. Et puis, il faut voir quelque chose aussi, c'est qu'un jeu comme Aventurer du Rail, on a dépassé les 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. On le vend dans des réseaux qui deviennent de plus en plus des réseaux grand public. Des gens qui ne connaissent pas, faut se dire, Aventurer du Rail, il y a des gens qui ne connaissent pas ce jeu-là encore, hein, parce qu'ils connaissent à peine le Monopoly. Donc on est aussi sur une distribution et des réseaux qui sont beaucoup plus grand public. Et c'est important, une fois que tu rentres là-dedans, de continuer à développer et continuer à faire parler du jeu, avoir de la presse, et voilà.
C'est-à-dire que quand quelqu'un qui n'est pas joueur voit qu'il y a toute une gamme, ça lui donne confiance dans le fait d'acheter le jeu ?
Oui, déjà dans le premier temps, ça leur donne confiance. Ça donne confiance au marché. C'est-à-dire quand tu développes un jeu et que ça marche, eh ben, quand tu essayes de le vendre dans des réseaux un peu plus grand public, il faut que ces réseaux-là se disent oui, c'est une gamme sur laquelle il y a un travail de fond de la part de l'éditeur, il y a du marketing, il y a de la communication.
Ouais, c'est pas du produit ponctuel, donc ça donne envie d'y venir.
Voilà, faut savoir une fois que ton jeu a un peu franchi un peu notre microcosme, il faut savoir continuer à l'accompagner et pas le laisser tomber. Ouais.
Merci Adrien Martineau de Days of Wonder.
Merci Nico.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.